VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Et bienvenue à l'édition du mardi 6 octobre 2015. À la une ce soir.
Attaque de Boko Haram contre une position de l'armée tchadienne. 11 soldats tchadiens ont été tués.
Burkina Faso, cérémonie de désarmement du RSP, auteur du putsch du mois dernier.
Les militaires de l'ex-RSP ont été affectés dans d'autres garnisons et ont tous, ou presque, déjà rejoint leur corps.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition s'insurge contre un projet de nouvelle constitution qui permettrait au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de se représenter en 2016.
Drame de l'immigration en Méditerranée. Plus de 200 migrants ont été repêchés en mer par l'armée norvégienne.
Ces migrants, en majorité des hommes, en provenance d'Érythrée, étaient tous bien portants. Beaucoup espèrent aller dans les pays plus au nord de l'Europe, notamment en Allemagne ou encore en Suède.
Nous rejoindrons Nicolas Pineau, actuellement en Sicile.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Nouvelle attaque de Boko Haram au Tchad. Les insurgés islamistes ont pris pour cible une position de l'armée à Kaegan-Gouboua, près de la frontière avec le Nigeria. 11 soldats tchadiens ont été tués et 13 autres ont été blessés. L'armée affirme toutefois que l'ennemi a été mis en déroute. 37 combattants de Boko Haram auraient été tués et un important lot de matériel récupéré. Rappelons que l'armée tchadienne est engagée en première ligne dans une opération militaire régionale contre Boko Haram.
En République du Congo, un référendum sur un projet de nouvelle constitution qui permettra au chef de l'État de se représenter en 2016 divise. Les Congolais doivent se rendre aux urnes le 25 octobre, selon un communiqué publié lundi soir par le gouvernement. Mais l'opposition promet de contrer cette démarche. Eric Manirakiza.
Le président Denis Sassou Nguesso se trompe d'époque. C'est la réaction de Pascal Tsatsi Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS, premier parti d'opposition. Monsieur Mabiala s'est engagé à s'opposer jusqu'au bout au projet de référendum, estimant que le président Sassou veut tout simplement changer la constitution et se maintenir au pouvoir. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD, fait bloc contre cette volonté du gouvernement de Brazzaville. L'autre formation membre du FROCAD, le Parti social-démocrate congolais, PSDC, demande le retrait de ce texte. Son leader, Clément Miarassa, a déclaré que ce projet ne repose sur aucune base juridique. Officiellement, la nouvelle constitution vise à faire évoluer les institutions du pays, mais l'offrirait plutôt au président Sassou au pouvoir depuis 30 ans, un cumul de mandats illimité.
Conséquence du récent regain de violence en République centrafricaine, plus de 2000 personnes ont fui vers le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Les réfugiés sont arrivés dans la province de l'Équateur, bien que Kinshasa ait décrété le 28 septembre la fermeture de sa frontière avec la RCA, souligne le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial.
Au Burundi, des leaders de l'opposition et de la société civile rejettent ce qu'ils appellent une tentative du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'ethniciser la crise actuelle. Le gouvernement de Pierre Nkurunziza a ce week-end accusé l'Union européenne de ne viser dans ses sanctions qu'une seule ethnie. Pour l'instant, pour Innocent Mouosi, directeur général de la radio-télévision Renaissance, cette tendance n'est pas nouvelle.
Vous savez, ce n'est pas le porte-parole qui essaie d'utiliser, il est porte-parole d'une organisation qui lui dit de dire ce qu'il a dit. Donc ce n'est pas tellement de lui qu'il s'agit. Il s'agit d'un choix d'orientation idéologique complètement désastreux qui a déjà montré à quel point il pouvait être catastrophique. Ça fait des mois et des années même que certains individus essaient de jouer à cela. Encore une fois, il faut différencier ce que certains essaient de faire de leur propre parti où il y a des gens qui sont totalement contre cela, qui sont intègres, qui sont des Burundais comme tous les autres, qui aspirent à la paix et à l'unité. Mais des groupes, ce courant-là existe bel et bien, nous le voyons depuis des années, et que ce courant essaie de s'imposer sans tout à fait réussir, et surtout d'imposer cela à tous les Burundais, mais sans vraiment réussir. Donc il y a une crainte à avoir qu'il ne faut pas laisser ces gens prédominer parce qu'ils sont extrêmement dangereux pour tous les pays et pour eux-mêmes.
Innocent Mouzi, joint à Kigali.
Génocide rwandais, la justice française a prononcé un non-lieu pour le prêtre Wenceslas Munyeshyaka. C'est ce qu'indique l'AFP. Il a été le premier Rwandais visé par une plainte en France pour le génocide de 1994, dont l'enquête avait pourtant relevé le rôle trouble dans sa paroisse de Kigali.
Une cérémonie symbolique de désarmement du régiment de sécurité présidentielle, RSP, auteur du putsch avorté du 17 septembre contre le régime de transition au Burkina Faso, a marqué la fin ce mardi de cette unité d'élite et ancienne garde prétorienne de l'ex-président Compaoré, Jacques Aristide.
Armes lourdes, canons anti-chars, fusils d'assaut, grenades ont été présentés sur l'emblématique place de la Nation, surnommée place de la Révolution par les Burkinabés. Le matériel militaire provenait du camp Naab à Koum 2, où s'étaient retranchés les putschistes du RSP et que l'armée loyaliste a pris d'assaut le 29 septembre. D'après l'AFP, plusieurs centaines de personnes venues assister à la cérémonie ont longuement applaudi le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, et ont scandé des slogans contre le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré. Diendéré assassin ou Diendéré à la CPI, pouvait-on entendre. La présente cérémonie a pour but de marquer la fin du désarmement de l'ex-RSP, a déclaré le chef du gouvernement en présence de chefs d'état-major des armées de pays de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le RSP était le bras armé du président Blaise Compaoré, lui-même chassé du pouvoir en octobre 2014. Avant même le coup d'État manqué du mois dernier, une large partie de la population réclamait le démantèlement de cette unité d'élite alors que des élections présidentielles et législatives étaient prévues pour le 11 octobre au Burkina.
Mauritanie, la fièvre de la vallée du Rift a fait 4 morts depuis septembre, selon un nouveau bilan communiqué par le ministère mauritanien de la Santé.
Les rebelles sud-soudanais ont mis en garde aujourd'hui contre un risque de retour à la guerre si le gouvernement met en œuvre son projet de multiplier par 3 le nombre d'États dans le pays. Le président Salva Kiir a signé vendredi dernier un décret devant faire passer de 10 à 28 le nombre d'États. Et selon un porte-parole des rebelles, cela causerait l'effondrement de l'accord de paix.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Union européenne affirme avoir convenu avec les autorités turques d'intensifier leur coopération en vue de la relocalisation des réfugiés et migrants fuyant les conflits au Moyen-Orient. L'UE aidera les patrouilles des gardes-côtes de la Turquie, selon un plan de crise discuté lundi à Bruxelles par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Entre-temps, en Méditerranée, le drame des migrants continue. La Norvège a repêché plus de 200 ce mardi. En seconde partie d'émission, nous aurons des précisions avec notre envoyé spécial en Italie, Nicolas Pino.
Des F-16 de l'aviation turque ont été à nouveau harcelés par un MiG-29 non identifié à la frontière turco-syrienne. C'est ce qu'a affirmé ce mardi l'armée turque. Tatiana Mosso nous en dit plus.
Selon le communiqué de l'armée turque, le MiG-29 a allumé son radar pour identifier sa cible pendant 4 minutes et demie. Le texte fait état d'un autre harcèlement par une batterie de missiles solaires déployée en Syrie. Ces incidents surviennent après une série de violations de l'espace turc par des avions de combat russes le week-end dernier, ce qui a provoqué des tensions entre la Turquie, membre de l'OTAN, et Moscou, qui s'est impliquée militairement en Syrie. À Bruxelles, où il est en visite ce mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté la Russie à ne pas perdre l'amitié de la Turquie. La violation de l'espace aérien de la Turquie par 2 avions de combat russes ce week-end n'est pas un accident, a estimé aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en réponse à Moscou, qui a évoqué de mauvaises conditions météo pour expliquer l'un de ces incidents.
Visite à Bagdad de l'envoyé spécial américain près la coalition internationale contre le groupe État islamique. Le général retraité John Allen devait s'entretenir ce mardi avec plusieurs hauts responsables du gouvernement irakien et des autorités militaires. Cette visite intervient au lendemain d'une vague d'attentats à la bombe qui a fait au moins 57 morts à travers le pays. Daesh a revendiqué la responsabilité de l'un de ces attentats près de Bassora dans le sud. Les 2 autres, dont le plus meurtrier, se sont produits au nord de la capitale.
L'organisation État islamique affirme être l'auteur d'une série d'attaques contre le quartier général du gouvernement yéménite et les positions de la coalition arabe dans la ville portuaire d'Aden. La déclaration des djihadistes disant qu'ils ont perpétré 4 attentats suicides à Aden contredit la version officielle selon laquelle il s'agissait d'attaques à la roquette lancées par les rebelles chiites soutenus par l'Iran. Ces attaques ont fait au moins 15 morts.
Toutes les organisations caritatives ont quitté la ville de Kunduz en Afghanistan suite à un bombardement de l'aviation américaine qui a fait plusieurs morts dans un hôpital administré par Médecins sans frontières. Michel Joseph.
La frappe qui a démoli le centre hospitalier de MSF à Kunduz a eu un impact immédiat et dévastateur sur la population locale. Des milliers d'habitants ont fui et à peu près 8500 familles ont été déplacées dans la région du Nord-Est à cause des combats, selon OCHA, l'agence humanitaire des Nations Unies. La majeure partie de la ville est sans eau, sans électricité et les produits alimentaires se font rares. Jens Larke est un porte-parole de l'agence onusienne.
There is now no functioning.
Il n'y a aucun hôpital offrant des services de traumatologie dans la ville après ce bombardement. En fait, l'hôpital de Médecins sans frontières était l'unique établissement de ce genre dans toute la région, desservant quelque 300 000 habitants rien qu'à Kunduz. Donc, 300 000 personnes en sont maintenant privées, a dit le porte-parole.
L'attaque de samedi, qui a suscité de nombreuses réactions négatives, avait fait plus de 20 morts et des dizaines de blessés. Washington a annoncé une enquête, mais Médecins sans frontières réclame une investigation internationale impartiale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez...
Bingo pour AfroStream, plateforme payante de vidéos à la demande consacrée au cinéma afro. Un mois après le lancement de cette jeune start-up, le groupe de téléphonie Orange a annoncé sa participation à son financement. Fort d'un catalogue d'une centaine de films et d'une quinzaine de séries, AfroStream a lancé début septembre son service au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Déjà présent dans 15 pays en Afrique, mais aussi dans des pays européens ayant des diasporas importantes, Orange a fait du continent africain l'un des principaux leviers de croissance du groupe. Kinross, le cinquième producteur d'or au monde et propriétaire de la mine de Tasiast en Mauritanie, serait dans le collimateur de la justice américaine, selon le journal Le Monde. D'après le quotidien français, les autorités américaines enquêtent sur d'éventuelles commissions illégales réalisées par le groupe canadien, avec une longue liste de personnalités mauritaniennes, le plus souvent des proches du président Mohamed Ould Abdelaziz. Kinross a racheté le site minier de Tasiast, le plus important gisement aurifère du pays, à son compatriote Red Black Mining pour environ 7 milliards de dollars en septembre 2010. La justice française a annulé la saisie en juillet dans l'est de la France d'un Boeing 777 de la compagnie équato-guinéenne Ceiba Intercontinental dans le cadre d'un litige entre la Guinée équatoriale et une banque africaine. L'avocat de la compagnie aérienne s'est réjoui de cette décision, cette société n'ayant pas, selon lui, à répondre aux dettes de l'État.
Et voilà pour la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Et nous passons tout de suite à la page sport avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
On commence ce soir par la dépression et l'anxiété qui s'invite dans le football.
Malheureusement Gabi, malgré le spectacle qu'offre cette discipline, mais aussi l'argent que font nos stars du ballon rond, eh bien la dépression et l'anxiété sont les troubles psychologiques qui touchent plus d'un tiers des footballeurs selon les syndicats mondial des joueurs.
Et c'est une enquête qui révèle ce mal ?
Ah oui, l'étude a été commanditée par la FIPRO, c'est le syndicat mondial des joueurs, et 38% des 607 joueurs en exercice et 35% des anciens joueurs interrogés présentaient des syndromes de dépression et anxiété. Et ces troubles ont déjà fait une victime, comme le suicide du gardien allemand Robert Anke en novembre 2009.
Et certains se le demandent peut-être, à quoi va servir cette étude ?
Favoriser la prise de conscience, Gabi, et l'engagement des décideurs du football pour prendre des mesures appropriées, surtout le soutien effectif aux joueurs qui présentent des troubles psychologique. Et en Nouvelle-Zélande, par exemple, le syndicat des joueurs et professionnels et la Fédération nationale n'ont pas tardé à créer un programme pour évaluer la santé psychologique des joueurs dans le pays. C'est bien sûr en réponse à ce trouble fait.
Merci Eric Manirakiza pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorcil et Morgane Guiriac en votre compagnie, place au dossier du jour, à commencer par la crise migratoire en Europe. Nous partons en Italie où les migrants en provenance d'Afrique continuent d'affluer. La traversée de la Méditerranée, vous le savez, est extrêmement dangereuse et les victimes tous les jours plus nombreuses. Rien qu'aujourd'hui, un navire de guerre norvégien a sauvé 239 migrants. Ils ont été acheminés au port de Messine en Sicile. Sur place, Nicolas Pineau, parlez-nous de ces migrants.
Ces migrants, en majorité des hommes en provenance d'Érythrée, étaient tous bien portants. Ils ont notamment été pris en charge par la Croix-Rouge italienne. Le processus est toujours le même. Il y a un espèce d'examen médical à la descente du bateau et c'est le début pour eux de leur long périple puisque beaucoup ne vont pas rester longtemps en Sicile, ni même en Italie. Beaucoup espèrent aller dans les pays plus au nord de l'Europe, notamment en Allemagne ou encore en Suède.
La situation sécuritaire et humanitaire s'est-elle améliorée ?
Alors écoutez, on peut dire que pour le moment, plus de 2500 personnes sont mortes depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée à partir des côtes africaines. 2500 n'est qu'une estimation, puisqu'évidemment on n'a pas les chiffres exacts. Il faut dire que la traversée est un tout petit peu plus sûre, mais vraiment, prenons des grosses précautions. C'est-à-dire que maintenant, les bateaux européens vont quasiment chercher les migrants tout près des côtes libyennes. C'est d'ailleurs un des arguments pour les passeurs qui explique que la traversée maintenant est quasiment très sûre pour les migrants, puisqu'ils vont être de toute façon secourus par les bateaux européens, ce qui est faux évidemment. Comme le répétait le commandant du bateau norvégien, la traversée est dangereuse et les Européens, les militaires qui patrouillent dans la zone ne pourront jamais sauver tout le monde. Concernant les conditions, c'est vrai qu'il y a eu une amélioration, une meilleure organisation du côté des Européens, puisque la plupart des migrants qui arrivent sont entre guillemets triés et ils peuvent après continuer leur périple pour ceux qui souhaitent demander le statut de réfugié notamment. Donc les choses se sont un peu améliorées, mais ça reste quand même une traversée mortelle et un quotidien très dangereux.
Nicolas Pineau, vous avez également rencontré des migrants à Rome. Donc, qu'avez-vous constaté là-bas ?
90% ont pris un bateau depuis la Libye, 10% depuis l'Égypte. La plupart sont des migrants africains. La grande majorité sont des Érythréens ou des Somaliens. Pour les personnes que j'ai rencontrées à Rome, notamment des Maliens, des Gambiens, mais également, je l'ai dit, des Érythréens, la plupart ont cette idée que l'Italie n'est qu'une espèce d'étape dans leur périple européen. La plupart veulent gagner les pays nordiques. Beaucoup d'entre eux racontent la difficulté, évidemment. Pour certains, cela fait plus de 2 ans qu'ils sont sur la route. Ils racontent la traversée très difficile, évidemment, où on ne sait jamais si on va réussir à aller de l'autre côté. Mais tous ont un espoir d'arriver au bout de leur voyage. Et tous m'ont répété la même chose. Il faut mieux essayer de mourir en arrivant en Europe que de rester à galérer ou à mourir avec les guerres en Afrique.
Vous parlez beaucoup des réfugiés africains. Qu'en est-il des réfugiés syriens ?
Les réfugiés syriens, pour la plupart, traversent grâce à la Grèce, grâce à la Turquie et tous les Balkans, l'Europe de l'Est. Quelques-uns, évidemment, tentent leur chance par l'Italie, mais c'est une route très minoritaire hein, pour une simple raison, elle est géographique. La plupart des Syriens qui ont quitté leur pays se retrouvent dans des pays tels que la Turquie. Ils ont donc beaucoup plus de facilité pour accéder au territoire européen à travers, je le répète, la Grèce et la Turquie.
Merci Nicolas Pineau, notre envoyé spécial en Italie.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur l'élection présidentielle de dimanche en Guinée. L'ambiance est tendue dans le pays après des affrontements meurtriers le week-end dernier à Nzérékoré entre partisans du président Alpha Condé et sympathisants de son rival Sélou Alain Diallo. Que faire pour consolider la démocratie 5 ans après les premières élections libres en 2010 ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Burkina Faso, le dernier acte marquant la fin du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, a été signé ce mardi par le Premier ministre Isaac Yacouba Zida, en présence des chefs d'état-major des armées de la CDAO. Il s'agissait de la présentation publique d'un échantillon d'armes que possédait l'ex-RSP. L'unité d'élite a été finalement dissoute suite à l'échec du coup d'état du général Gilbert Diendéré. Écoutons le reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Vous avez les armes antiterroristes Uzi, vous avez les MP5 de 9 mm, les armes collectives, et les armes anti-char et les armes à tir court. Vous avez les Kalash M et les Kalash standard tireurs d'élite et les armes à pompe. Ici, vous avez composition des lance-grenades de 40 mm et les lance-roquettes de 40 mm aussi.
Si les armes vont rejoindre les magasins de l'armée régulière du Faso, quel sort est réservé aux éléments du RSP? Suivant la réponse du Premier ministre Yacouba Isaac Zida.
Les militaires de l'ex-RSP ont été affectés dans d'autres garnisons et ont tous, ou presque, déjà rejoint leur corps. Leur intégration a donc commencé et des instructions ont été données à toutes les unités et aux populations qui les reçoivent afin qu'elles les accueillent en toute fraternité. Sur le plan judiciaire, pour permettre d'agir dans la transparence, le gouvernement a mis en place une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les événements. Ceux qui ont planifié et exécuté ce coup d'État répondront de leurs actes devant la justice. Ainsi donc se tourne une page douloureuse de notre histoire.
Quand le maître de cérémonie a annoncé la visite des armes du RSP, ce fut la ruée vers les véhicules estampillés RSP par ces nombreux jeunes qui, il y a seulement quelques jours, avaient une peur bleue du RSP. On les écoute.
Ah, en tout cas, moi je ne pensais pas, je ne pouvais même pas penser à ça. Ce que moi je peux souhaiter, c'est vivre l'armée.
On avait trop peur, on ne savait même pas qu'un jour, on pouvait s'approcher même du véhicule de RSP. On ne savait même pas. Tellement si on voyait de 1 km, on fouillait.
Moi, personnellement, je me sens très, très, très... C'est comme si j'ai des ailes. Oui, oui. Et je sens que le Burkina est devenu nouveau.
Le doyen du corps diplomatique accrédité au Burkina, l'ambassadeur du Tchad, venu pour le constat de fin de désarmement, nous a confié ceci. On écoute l'ambassadeur Mbatna Badjang.
C'est un constat d'une réussite de l'action des forces armées burkinabées. Mais je voudrais, au-delà de ça, souligner quelque chose qui m'a particulièrement marqué. C'est le professionnalisme avec lequel la hiérarchie militaire a conduit ce processus. Ce qui s'est passé avant, c'était plutôt une entorse. Je crois que c'est une fin heureuse.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Cap maintenant sur le Mali. Le président a promis 1000 tracteurs aux paysans. Ces engins ont été achetés, présentés aux paysans. Mais quelques jours après, voilà qu'une polémique s'installe autour de leur acquisition. C'est le parti politique Parena qui a soulevé des cas d'irrégularité dans la passation du marché. Kassim Traoré nous en dit plus.
Le parti pour la Renaissance nationale Parena dénonce un gré à gré, une surfacturation dans l'acquisition des 1000 tracteurs que le président de la République du Mali a promis aux paysans. Car un tracteur a coûté un peu moins de 6 millions de francs CFA, mais a été vendu à l'État malien à plus de 13 millions de nos francs. Une marge importante quand on sait qu'au total, ce sont 1000 tracteurs qui ont été achetés. Tigiba Keita Di PPR, secrétaire général du Parena.
Ce que le Parena a relevé, c'est d'abord le fait insolite que le jour où le Conseil des ministres a attribué à Tourna SARL le marché de 800 hectares, c'est-à-dire le 29 juillet, ce jour-là, ces tracteurs étaient déjà arrivés au cordon douanier à De là partent tous les soupçons, de là partent toutes les dérives. Parce que quand on dit on a attribué le marché le même jour, les traiteurs sont déjà là, nous nous disons pour le moins c'est buté, pour le moins c'est une opération ou pas.
Approchés par nos souhaits, les responsables des ministères de l'économie et des finances et celui du développement rural ne sont pas d'accord avec les affirmations du Parrainat. Selon eux, il n'y a jamais eu de pot de vin versé. Mieux, la procédure d'appel d'offres a été strictement respectée. Avant d'ajouter que le fournisseur qui a été choisi était qualifié pour faire le travail. Même la direction du marché public a validé l'opération. Et tout le monde sait que l'idée du président de la République de donner des tracteurs subventionnés aux paysans a été saluée au Mali. Mais le Parrainat n'est pas d'accord.
C'est un gré à gré qui ne dit pas son nom. Et pour faire ce truc-là, appel d'offres RFR ou appel d'offres ou gré à gré en juillet, ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire qu'il y avait anguille sur l'offre. Le Mali, d'après nos investigations, chaque tracteur a coûté à l'État malien au maximum 5 900 000 francs. Si l'État veut donner aux paysans à moitié prix, ça devrait être 2 950 000. À 6 millions. Donc, pour le moins, c'est de l'arnaque.
Les partis pour la Renaissance nationale parlent d'arnaque. Les leaders de ces partis de l'opposition maintiennent toutes leurs accusations et annoncent de nouvelles charges. Il n'est pas exclu que les partenaires techniques et financiers du Mali se prononcent eux aussi sur le sujet. Le Parrainat défie le ministre du Développement rural à un débat public. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En République démocratique du Congo, polémique autour de la promesse du président Joseph Kabila de respecter la Constitution et d'aller aux élections. Le chef de l'État congolais a, le week-end dernier, indiqué qu'il n'a demandé à personne de modifier la Constitution. C'était au cours d'une réunion de la majorité au pouvoir, visant à resserrer les rangs de ses partisans, après le départ des chefs de 7 partie de la famille politique. Dossier Eddy Isango.
L'opposition a reçu le message avec beaucoup de doutes. Pour elle, Joseph Kabila n'a pas été suffisamment clair quant au troisième mandat qui limite la Constitution. La position de l'opposition est donnée ici par les députés et chefs du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste, Frank Diongo.
Lorsqu'il dit qu'il est prêt à aller aux élections ou il aime les élections, pourrez-vous comprendre qu'il manipule la CENI, la Commission nationale des élections, parce que, un, les élections provinciales qui sont prévues pour les 25 de ce mois, il ne reste que 19 jours. La CENI n'est pas capable de dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'élection cette année. Il a dit seulement on a décalé la campagne électorale, mais il ne donne pas la date de campagne électorale. À Kingakati, ils n'ont rien dit sur les calendriers des élections. L'argent des élections, le budget de la CENI, dans les rapports de la CENI, c'est 528 millions de dollars pour les élections provinciales. À la fin du mois de mai, le président Kabila et son gouvernement n'ont décaissé que 8%. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas donner l'argent d'organiser les élections parce qu'ils ne veulent pas des élections. Clair ? Donc, ils ne veulent pas des élections. C'est un mensonge d'État. Les Congolais ne croient pas, eux-mêmes ne croient pas à cela.
Pour la majorité présidentielle, le président Joseph Kabila est suffisamment clair. C'est le point de vue du secrétaire exécutif national du parti PPRD au pouvoir, Gaston Moussa-Mémé.
Je dois vous avouer que la personne qui vous parle, élue du PPRD à deux reprises, n'acceptera pas un troisième mandat pour Joseph Kabila. Je dois vous avouer que le PPRD, son parti, n'accepte pas le troisième mandat pour lui. Je dois vous avouer que Joseph Kabila lui-même n'a jamais préconisé un troisième mandat pour lui, parce que tout cela, ça serait la violation de la Constitution. Ce qui est vrai, vous devez le savoir, c'est que nous avons beaucoup de problèmes pour l'organisation des élections étant voulu. Voilà pourquoi vous demandez aux uns aux autres de nous mettre sur la table des négociations.
Est-il que la campagne électorale prévue pour les élections provinciales n'a pas été lancée comme prévu?
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Salut. c'est la fin de cette édition qui a été mise en onde ce soir par Yemi Obajimi avec l'assistance technique de Misha Dobinski à la console. Présentation Morgane Guériac et Chérubin Dorsil.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.